Bonjour Clotilde Varin.
Bonjour Anne Cantenaire.
Quelles sont les conséquences pour les migrants de cette politique européenne menée notamment avec le Niger, le Soudan et le Tchad?
Cela les met grandement en danger. Il est vraiment improbable de penser qu'on peut freiner la mobilité, parce que les routes se déplacent et que de toute façon, cette mobilité perdure. Les routes au Niger, les routes au Soudan sont plus bloqué, enfin on pourra peut-être y revenir, mais cela se déplace au Tchad. Et on a même vu des migrants de la Corne de l'Afrique qui passent par le Tchad.
Est-ce que ça signifie que le Tchad est en train de devenir le principal pays de transit pour les migrants?
Le principal, je ne sais pas si on peut encore le dire, parce qu'il faudrait plus de données, mais en tout cas, alors que ce n'était pas du tout quelque chose d'ailleurs, même pas qui était dans le radar de l'Union européenne, le Tchad est en train de devenir un pays de transit de migrants.
En criminalisant les migrations et les déplacements, on crée souvent des parcours plus dangereux pour les migrants eux-mêmes. C'est ce qu'on observe dans votre rapport où on voit que le nombre de morts dans le désert entre Agadez et la Libye a considérablement augmenté. Est-ce que c'est le cas partout?
Oui, on peut dire que c'est le cas partout. Si je prends juste rapidement l'exemple du Niger, avant qu'il y ait cette coopération en quelque sorte entre le gouvernement nigérien et l'Union européenne, il y avait, disons, un convoi tout à fait régulier, un convoi militaire, hein, c'est-à-dire des pick-up de migrants qui étaient accompagnés par des camions militaires et qui arrivaient jusqu'en Libye. Parce que c'est une route qui n'est pas sûre, parce que c'est le Sahara, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, en fait, cela n'existe plus, mais ces routes existent toujours. Sauf que du coup, ce sont des routes qui, par exemple, se retrouvent avec celles, enfin, qui se confondent, pardon, avec celles des trafiquants de drogue, de tramadol notamment. Donc, aujourd'hui, on criminalise, comme vous le dites très bien, et j'allais dire, et c'est vraiment terrible, on professionnalise ce travail de passeur, qui était un travail normal, hein, parce que ce que je voudrais que les auditeurs comprennent, c'est qu'en fait, on assimile beaucoup les passeurs à des trafiquants. Or, la mobilité et la migration dans cette partie du monde est tout à fait normale.
Que deviennent aujourd'hui les personnes qui vivaient de cette activité?
C'est un problème. Leurs véhicules ont pu être confisqués, certains ont été emprisonnés et on leur demande de passer à une autre activité. Au-delà du fait que c'est moins rémunérateur, ce n'est pas non plus quelque chose qui marche très bien. Et donc, il y a des tensions qui sont de plus en plus fortes à Agadez, des tensions entre les communautés, donc Toubou et Touareg, et le gouvernement central nigérien. Donc cela contribue à la déstabilisation d'une région qui était pacifiée.
Ces dernières années, l'Union européenne a également délégué une partie de la gestion des migrants au Soudan, avec des conséquences inquiétantes, comme on peut le lire dans votre rapport. D'après certains témoignages, cette politique européenne bénéficie en fait surtout aux milices pro-gouvernementales que l'on connaît sous le nom de Janjaweed. Comment ça s'est passé?
Alors, ces milices janjaweed dont vous parlez, donc qu'on appelle RSF, les forces de soutien rapide, ce sont celles que l'on connaît malheureusement bien parce que ce sont celles qui ont commis des exactions au Darfour, des milices donc du gouvernement de Omar el-Béchir. Et comme elles connaissent très bien ce coin, la frontière, je veux dire, entre donc le Soudan et la Libye et le Tchad aussi, ce sont ces milices-là que le gouvernement d'Omar el-Béchir a missionné pour remplir ce rôle de frein de la migration à la frontière.
Et est-ce que cette milice remplit sa mission?
Elle le fait, et Metti, qui est leur chef, leur commandant, s'en targue souvent dans les médias, avec des vidéos, etc. Mais surtout, en fait, elle taxe les migrants, et pire, et c'est cela qu'on a mis vraiment en lumière, elle joue un double jeu, c'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes des passeurs de migrants. Avec des voitures donc de l'armée soudanaise, avec donc j'allais dire le fuel de l'armée soudanaise. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement organisé.
Est-ce qu'on doit en déduire que le gouvernement soudanais joue lui aussi double jeu?
Oui. Et ce qui est aussi un peu inquiétant, c'est que l'Union européenne ne peut pas ne pas être au courant. En étant sur place, il doit être compliqué pour des officiels de l'Union européenne de ne pas voir qu'il y a aussi autre chose.
Pendant qu'il prétend agir pour le compte de l'Union européenne, le chef de cette milice dont vous parliez s'est même engagé dans une sorte de chantage avec les Européens en menaçant de ne plus stopper les migrants s'ils ne recevaient pas plus d'aide, plus d'argent, on suppose. Comment est-ce que l'Union européenne a réagi à ça?
Disons que, comme toujours, ils réagissent avec grande prudence. Dans tous les documents officiels, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec donc ce qu'on a les milices djihadistes, donc qu'on appelle RSF, donc les forces de soutien rapide. Puis aussi, l'Union européenne se défend en disant que tout l'argent qui est donné n'est pas donné directement au gouvernement, mais est donné à des agences des États membres, qui, elles, gèrent l'argent. Mais là, on l'a vu, et d'ailleurs, ils le déplorent en elles, qu'il y a une forme d'opacité vis-à-vis de cet argent, de l'usage qui en est fait, et il doit être difficile pour l'Union européenne d'être sûre que cet argent ne transite pas par des structures, j'allais dire, directement liées, peut-être même au RSF. On n'en a pas la preuve, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas.
Merci Clotilde Varin.